les derniers instants, c'est la descente qui est désormais officielle.
National,
ça se bat.
8 défaites de suite, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
C'est mal l'air, bébé.
Botella qui va pouvoir récupérer le ballon et marquer Ivan Botella.
Et je me souviens d'avoir dit à Kylian humblement qu'on ne méritait pas.
Non, un geste technique réalisé avec beaucoup de technique.
Bonsoir, bonjour, bienvenue dans WAM, l'émission 100% poutrage de We Are Malherbe. Alors quel plaisir de se retrouver comme tous les 15 jours pour parler des bleus et rouges, c'est une tablée présidentielle qui se dresse devant moi. Lui, s'il était président, chaque citoyen serait obligé d'avoir une équipe favorite dans tous les sports possibles et inimaginables. Oui, il s'est reconnu. Salut Jim.
Salut.
Si elle était présidente, chacun aurait chez lui un portrait de Nicolas Sohéro Sub. Anaïs, salut.
Salut.
S'il était président, chaque élève devrait apprendre par cœur le parcours de Xavier Gravelaine et l'ensemble des scores du Stade Malherbe de 1967 à nos jours. Salut JB.
Ça me paraît évident, bonsoir.
S'il était président, il relancerait la natalité comme personne. Salut Jérôme.
Salut.
Oula, celle-là, je... celle-là, j'ai pas compris.
Lui est déjà président et il nous force à bosser gratuitement dans son jardin depuis des années, c'est Seb.
C'est vrai, d'ailleurs, il faudra en repasser, c'est un petit peu d'ordure.
Ah, merci. Bon. Et enfin, nous avons un vrai président, et pas n'importe lequel, puisque Ziad Hamoud, président du Stade Malherbe est notre invité ce soir.
Bonjour à tous, Ziad. Bonsoir à tous.
WAM l'émission, c'est parti. Alors Ziad, avant tout, j'ai préparé un petit portrait pour que nos éditeurs et nous, d'ailleurs, hein, puissions te découvrir. Alors, tu es né, tu m'arrêtes si c'est faux, hein, bien sûr.
Je t'arrête.
Tu es né le 5 août 1968 au Liban. Alors, né au...
Je t'arrête.
C'est pas vrai.
Ça commence bien.
78 et non 68.
Ah, 78, pardon, non, j'ai écorché.
78. C'est ce que je me dis,
c'est d'un coup. C'est vrai qu'il est bien conservé.
Non, mais Malherbe, ça fatigue.
78.
C'est vrai.
78. J'avais bien noté 78, je sais pas lire. Au Liban.
Alors, je t'arrête encore une autre fois, mais ça, on racontera peut-être la date de naissance officielle n'est pas la vraie date de naissance.
Il y a eu tout comme un... Didier Gauchot.
Il y a eu...
Non.
Commence pas.
Non, c'était un petit... des raisons différentes où l'Amérique qui a pris ma date de naissance a brûlé entre-temps. Et donc, quand ils ont refait les papiers, ils ont pris la date d'enregistrement et pas de naissance. Donc, bref, ça me rajeunit de 2 petits mois. C'est pas énorme.
Bon, du coup, tu le fais de quand?
Le vrai, qui est le 17 juin.
Ok.
17 juin. Ok. Donc, c'est dommage parce que j'avais mis né à 5 août comme le poète Guy de Maupassant, le tout aussi poète Jarry, ou bien Neil Armstrong, comme quoi viser la lune, ça ne te fait pas peur, comme notre ancien joueur Brahim Thiam, les vrais ont la ref.
Ouais.
Après un diplôme de l'ESCP Europe School of Management en commerce et finance, tu as débuté dans le milieu bancaire à Londres, principalement dans le domaine des fusions, des acquisitions et des marchés financiers dans les pays émergents. Un début de carrière comme ça annonce une grande page LinkedIn. D'ailleurs, je suis allé voir la tienne. Alors, tu écris tes posts en anglais. Quand même, ça, c'est la classe. Et tu as comme description médias, sport, investissement, agency, branding, stratégie. Alors, sur le dernier point, tu aurais peut-être 2-3 conseils à donner à nos différents coachs. En 2008, tu as contribué à la création d'un fonds d'investissement à Dubaï, Algebra, capital. Et de juillet 2014 à décembre 2022, à Bein Sport, tu as exercé la fonction de directeur de la stratégie et des investissements. Depuis que tu as quitté Bein, d'ailleurs en 2022, on peut dire que tu es officiellement un has-been. Comme l'ensemble des habitants
elle
de Bayeux.
Elle est bien.
Comme l'ensemble des habitants de Bayeux, notre dernier bourreau en Coupe de France, j'ai remarqué que tu es adepte des doudounes sans manches.
Dis donc.
Non mais c'est vrai, Bayeux, vous êtes 1/2 à voir ça à peu près. Non mais c'est vrai, sur les photos...
Je t'arrête pas, c'est vrai, non, je t'ai pas arrêté, c'est vrai.
Sur les photos, on voit toujours une doudoune sans manche, sous le costume parfois. Alors j'ai connu un gars comme ça, il portait tout le temps 2 pulls, il a été diagnostiqué bipolaire. Bref, comme tous les... Bref, comme tous les mecs qui portent des doudounes sans manches, tu es adepte du padel.
Ah
puisque
ouais.
Tu es membre depuis le mois de mai 2022 du directoire de Première Padel, le circuit professionnel.
Fini ça aussi, non, ça
c'est fini.
C'est dans une vie antérieure.
Bon, c'est dommage parce qu'avec Seb, justement, on essayait d'intégrer
Mais j'aime beaucoup le padel qui est un sport fantastique. Et
on essaie de percer avec Juju, Jérôme aussi. On essaie de percer.
Avec
plaisir,
on va se faire un padel avec sans doudoune, mais avec t-shirt et short quand même.
Ok. On aurait pu passer pro. Mais les croisés, hein, tu connais.
Bah ouais.
Depuis 2023, tu diriges la société qui gère les droits d'image de Kylian Mbappé, Interconnect Ventures, c'est très dur à dire, ce qui nous amène à ton arrivée au Stade Malherbe en septembre 2024. Londres, le golf, Caen. Londres, le golf, Caen. Dans le désordre, c'est la même carrière qu'Ingol Kanté, en fait.
C'est
pas mal. Alors, depuis ton arrivée à Caen, c'est un peu un retour aux sources, hein, parce que depuis, tu as nommé 4 entraîneurs sur Liban. Voilà. Ouais. D'accord. Bon, en tout cas, à Caen, d'après les échos qu'on a eus, tu es plutôt perçu comme quelqu'un d'humain et sympa. Mais je suis pas trop d'accord parce que on t'a vu cette semaine sur les réseaux. Tu étais au CHU avec les joueurs pour soutenir les enfants malades, comme s'ils n'avaient pas assez souffert comme ça. Bref, je ne m'attarde pas.
Ils nous ont soutenus beaucoup aussi.
Ouais, je m'attarde pas trop sur ton passage à Caen parce que ça va être le sujet des 1 heure qu'on va passer ensemble. Ça va, il n'y a pas trop de bêtises à part la date de naissance?
Non, merci beaucoup, merci.
Bon alors Ziad, qu'est-ce que déjà...
Comment ça va Ziad?
C'est exactement ce que je voulais demander, comment ça va?
Ça va, ça pourrait aller mieux et je suis sûr qu'on va en parler, mais ça va parce qu'il y a on voit à l'intérieur du club sur tout ce qu'on fait, les différentes verticales qu'on a décidé de faire avancer et on en discutera, que ce soit le centre de formation... Que ce soit les jeunes, très très jeunes, que ce soit les capsules pour les jeunes prometteurs, que ce soit les féminines, que ce soit la Gambardella. Donc on voit toutes ces petites graines qui ont été mises en place depuis quelques semaines. Le stage KM, on en parlera. Enfin, tout un tas de choses qui se passent, qui commencent à prendre forme. Mais ça pourrait aller mieux parce qu'on a l'équipe première qu'on voyait plus haut et qui n'est pas encore là où on veut qu'elle soit.
Juste, j'en profite. C'est quoi le stage KM?
Kylian Mbappé.
Ah, KM. Ah, KM, oui. Ah d'accord, je croyais que c'était KM.
Non, pas eux.
C'est ça. Je pensais à autre chose.
Tu pensais que c'était quoi, KM?
Non, bah, c'est le groupe de supporters que votre ouvert d'esprit.
Ah, non. En fait, j'avais même pas fait le.
Mais on pourrait leur proposer un stage pour leur ouvrir l'esprit.
J'ai eu peur.
Le moyenâgeux de la ville de Caen, en fait.
Ok.
Moi, je me demandais parce que dans le portrait, comment dire, Julien est revenu sur tes différentes étapes. Est-ce que quand tu étais jeune, tu étais fan de foot ou pas? Et est-ce que tu supportais un club?
Toujours très très sportif, pas forcément que le foot, parce que moi, je faisais beaucoup de tennis, je faisais beaucoup de hand, je faisais beaucoup de basket à des niveaux régionaux, pas plus haut que ça. Mais extrêmement sportif, le foot étant effectivement un des sports que j'aimais. Et je suivais surtout les équipes où allait Zidane. Donc j'étais un fan de la Juve, j'étais un fan du Real Madrid, j'étais...
et un fan de la SCAN du coup.
Et du PSG.
Fan de la SCAN.
C'est là qu'il a commencé, c'est vrai.
Ouais.
Mais ensuite, avec le professionnel qui s'engage, le PSG était également très 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 proche puisque je travaillais avec dans cet écosystème-là. Mais ouais, voilà mon histoire avec le foot. Et petit à petit, l'amour se développe.
Ouais, okay. C'est beau. Seb, avant qu'on reprenne les questions, on va faire la tradition de cette émission quand même, le kick à tweeter.
Tout à fait. Alors, un kick à tweeter, kick à dit, tu peux jouer évidemment, Ziad. Kick à tweeter, il faut recruter Luis Suarez.
Oui. On se demande pourquoi.
Oui, mais c'est quoi le contexte? Bah, en fait, le contexte, c'est Gaël Clichy qui a dit on manque de mordant. Ah, oui. Et ouais. C'est Jonas, évidemment. Qui a dit c'est...
J'ai jamais pu croire cette histoire. J'ai toujours trouvé hallucinante.
Qui morde.
Mais il l'a fait plusieurs fois, devait voir.
Oui, il l'a fait deux fois. Il a fait une récidive.
C'est un truc de l'enfance, je pense.
Comme Tyson.
C'est un truc de l'enfance ou alors il y a certains produits qui développent aussi l'agressivité.
Oula, ça dénonce là.
Ça dénonce.
Kikadi, c'est comme ma deuxième famille. J'ai fait un tour en Finlande et c'était plus compliqué. Je ne comprenais pas la langue. Ici, j'ai été bien accueilli par le staff, les coéquipiers et surtout Nico Sepp qui m'a beaucoup encouragé. J'ai beaucoup d'amour pour ce club. C'est pour ça que je donne toujours le meilleur de moi-même. Je vais essayer de partir par la grande porte.
Bon, c'est Wonderful Didi.
C'est ça, c'est Didi Gojo.
Ouais.
Voilà. C'était prévu qu'il annonce, non? Ou c'est venu comme ça?
Non, absolument pas. On a eu des conversations il y a déjà quelques mois, mais on verra comment ça se passe. Mais effectivement, il n'y avait rien dans sa déclaration, il n'y avait absolument rien de travaillé ou de prévu ou d'orchestré.
D'accord. Ça vous embête?
Qu'il
annonce. Qu'il ait dit ça comme ça?
Il fait ce qu'il a envie de faire tant qu'il performe sur le terrain. S'il ne performe pas, c'est là où ça sera embêtant. Mais Didi est quelqu'un en qui on a confiance, qui est un soldat sur le terrain et qui, j'ai aucun doute, va continuer à l'être jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde, que ce soit cet été ou l'été prochain. On saura. On verra.
Kikadi, quand on a un groupe composé de beaucoup de jeunes du centre avec des joueurs qui ont connu le national comme meilleur niveau, il y a de l'appréhension et c'est normal.
Gaël Clichy ?
Bah ouais.
Ouais. Oui, bah c'est vrai.
Bon, on va peut-être en reparler, mais effectivement, donc c'est vrai que je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une chronique qui disait un peu le cycle des entraîneurs. Et là, on est dans le cycle où il bascule à être un peu plus cash et beaucoup plus critique sur son groupe. Qui a dit beaucoup de monde doit se remettre en question et pas seulement les joueurs.
C'est Yann Mvila.
Ouais. Et il a dit aussi, c'est plus un problème mental. Le foot, ce n'est pas que physique. Ce n'est pas que technique. C'est aussi avoir un peu plus de QI football, il nous manque énormément de réflexion.
Ah, il n'était pas content.
Je
crois qu'on était extrêmement frustrés. Ouais, c'était le capitaine, effectivement. On était tous extrêmement frustrés. Si je me souviens bien, ça c'est post-Valenciennes.
Ouais, c'est ça. Oui.
Et on était tous extrêmement frustrés de la prestation, surtout en première mi-temps, et de la défaite. On partait là-bas, tout était entre guillemets aligné pour une victoire et pour relancer, et on fait deux erreurs parce que en deuxième mi-temps on n'est pas mauvais, et en première mi-temps on fait deux erreurs qu'on paye cash, et c'était on a parlé au jour d'ailleurs, il y avait un manque, je pense, d'intensité et d'agressivité pendant cette première 25-35 minutes. Et on se prend ces deux buts en 5 minutes, je crois, si je ne me trompe pas. Et c'était effectivement très, très difficile à avaler. Parce qu'après, on essaie de revenir au score. On réduit, mais pas assez.
Moi, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est quand il dit beaucoup de monde doit se remettre en question, pas seulement les joueurs, il parle de qui ?
On va lui demander. Mais okay. Je pense que il veut faire allusion potentiellement à, quand il parle de mental, à différents partie prenante, est-ce qu'on fait tout bien au niveau du mental ?
Le QI football, ça peut être aussi au départ, à l'arrivée d'un joueur. Est-ce que les recrues ont le QI football nécessaire à l'arrivée ? Donc peut-être qu'ils ne visent pas que l'encadrement actuel, mais peut-être les choix aussi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa tête. On lui posera la question quand il viendra.
On aimerait le recevoir d'ailleurs. Je lance la perche, on aimerait beaucoup recevoir Yann Mvila, le capitaine quand même. Il a dit le foot, c'est pas que le physique. Bah, heureusement pour lui, parce qu'il n'a plus trop le physique.
Non, attends.
Ah bah si.
C'est un Kikadi, c'est même pas un tweet.
C'est un Kikadi.
Un joueur,
c'est Patrice Garand qui a dit ça, effectivement. Patrice Garand sur Yann Mvila, en réaction à la déclaration de Yann Mvila, il était.
Il va peut-être recevoir les deux en même temps.
Je ne suis pas certain.
On va se marrer.
Et d'ailleurs, derrière cette porte, on lui a laissé entrer Patrice Garand. Ziad est en train de devenir tout blanc.
Jamais aucun problème à discuter avec les gens, que ce soit des gens qui... En général, il vaut mieux discuter avec les gens qui ne pensent pas comme vous, d'ailleurs, parce que sinon, c'est moins drôle.
On est d'accord. Donc voilà. Ouais, Patrice, il taille pas mal. Ça sert à des
seuls. Ouais, depuis assez longtemps, d'ailleurs. Depuis qu'on est là, depuis un an et demi, j'entends, et effectivement, mais...
Il est trop dur.
Moi, j'ai pas. Non, qu'il soit dur ou pas, c'est son sujet. La question pour moi, c'est comment est-ce qu'on est constructif dans la vie.
Le pauvre, on le force à regarder tous les matchs de Malherbe quand même.
C'est ça, faut le mettre à sa place.
Il faut surtout pas qu'il les regarde s'il veut pas les regarder.
Ouais, et puis la différence par rapport à nous, c'est qu'il est payé.
Il est payé en plus.
Ouais. Nous, regarde, on n'est même pas payé.
Pire, on paye.
On paye.
C'est ça. Alors,
par contre, il est bienvenu pour venir au stade et les regarder au stade s'il veut. Et il sera toujours bien reçu et on le mettra en bonne condition pour regarder les matchs.
Alors, parlons d'argent, justement, continuons à parler d'argent. Qui a dit je coûterai 80 millions d'euros ?
Ah oui, Yohan Molo,
qui a dit effectivement que je pense que si j'étais aujourd'hui footballeur, je coûterais 80 millions d'euros. Ah oui, j'en suis persuadé, parce que sans prouver, tu coûtes cher.
Quoi ?
Non ? Vous en pensez quoi ?
Alors, sur le montant, c'est balancé comme ça, mais la mécanique... Alors, j'allais dire la mécanique intellectuelle. Connaissant Yohan, je sais pas si on voulait jusque-là. Mais il a pas tort, en vrai.
Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Enfin, mais pas 80, mais...
De façon, marché anglais, quoi.
Mis à part les 80, ouais. Et mis à part le cas personnel, on le voit sur nos jeunes joueurs, ouais. Et d'une manière générale, que ce soit chez nous ou ailleurs, dans les clubs, de Ligue 2, de National, très, très, très vite... En ayant joué 2-3 matchs, Il y a une espèce de groupe de vautours qui se jettent sur eux. Et c'est compliqué pour les clubs plus petits en Ligue 2, en National, parce qu'il faut pouvoir tenir par rapport à certains clubs qui viennent d'Allemagne, de Suisse, de Belgique, qui ont des moyens plus costauds. Mm. Et donc, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de preuves avant d'arriver avec des espèces de montants débiles.
Mais c'est parce qu'ils savent que la France, c'est le meilleur centre de formation.
C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais, et la situation actuelle du foot français ne nous aide pas, nous, clubs, à pouvoir les garder plus longtemps, à pouvoir... Mais ça, c'est pas... Je ne nous fais pas la victime au Stade Malherbe, c'est vraiment à l'échelle du pays.
Surtout Johan Molo, c'est un peu le profil rapide, un peu technique, oui. Qui flambe et qui fait flamber les prix. En fait, il a le profil pour dire
non,
ça.
Mais
en
vrai. Parce que je pense que ce qu'il dit, c'est qu'il y a plein de gens qui disent que là, on est dans un trou générationnel qui s'est arrêté un peu avec la Messi et Ronaldo quand ils étaient au top. Et lui, je pense que dans sa réflexion, si on peut dire ça, c'est que les joueurs sont moins bons aujourd'hui qu'ils n'étaient avant, je pense.
Oui, bah, fais gaffe, t'as mis réflexion à Yohan Molo.
Il y a un dernier enjeu qui est celui de l'évolution de l'économie du foot et notamment sur les montants des transferts, même si ça devrait changer. Juste pour rappel, parce que quand il a dit ça, je suis allé vérifier, Maradona au Barça, c'est 7 millions. Mais non, mais c'est parce que, et à l'époque c'était énorme.
Ouais. Bah,
non, mais mon salaire aussi en ancien franc à ce compte-là. Donc, il est ouf, mon salaire.
J'ai rectifié, on parle en euros constants.
Oh.
Mais à chaque génération, il y a un transfert de fou. Zizou, on parlait de Zizou tout à l'heure.
Zizou,
quand il est maintenant 75, c'est un défenseur moyen du Bayern.
C'est Zabarni.
Anthony Martial, plus de 80.
Voilà. Oui, bah, mais il y a eu un moment où c'était parti un peu n'importe comment.
Voilà. Aussi.
Et ça s'est un peu calmé, j'ai l'impression quand même.
Surtout en France, oui.
Et surtout chez nous.
Bah, tu m'étonnes.
Ah oui, oui.
Qui qu'a dit du fond du cœur, je suis désolé, en aucun cas, je n'aurais voulu vous faire du mal, l'alcool n'excuse pas tout, j'ai honte.
Alors ça, c'est la rubrique Fait divers à Rennes, je pense, non?
Tout à fait.
Oui, tout à fait.
C'est au tribunal, c'est
on peut pas
en
dire
comparution
le
immédiate.
C'est la presse qui a sorti donc, le fait qu'il y a eu donc,
un joueur
formé à Rennes qui a évolué à Caen.
Et qui a environ une grosse quarantaine. Voilà.
Voilà.
Mais qui n'est pas...
C'est ça.
Une idole.
Non, c'est pas Julien Ferry. Qui n'est pas une idole. Voilà.
Julien Ferry, je suis même pas sûr qu'il soit formé à Rennes.
C'est ça. Julien Ferry, il s'est formé à Nancy, je crois.
Voilà.
Oh. Après, voilà. Donc, on va pas dire le nom. Juste, bon, a priori, c'est quelqu'un qui est habitué à dépanner sa voiture sur le bas-côté. Quoi ?
Je l'ai pas.
Non, mais
moi.
Quand tu crèves un pneu, tu.
Bref.
Tu fais quoi quand tu rêves un pneu?
Ah
oui, ah, tu,
ah, oui.
Montes,
oh, d'accord.
Tu montes.
Allez,
en haut.
Continue,
hein.
Là, bon, continue, tu es sur un mauvais chemin.
Waouh.
Avance.
Mais non, j'ai rien dit. Moi.
Bah, on sait pas.
Alors, attention, qui est fort en stats? Eh ouais, on évolue encore. Ah. Qui est fort en stats? Le Stade Malherbe, j'ai vu ça passer ça, c'est Christophe Maillet sur Génération Stade Malherbe qui a dit ça, donc je vais le croire, hein, s'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Le Stade Malherbe, hors match de Coupe de France, a joué 2609 matchs. Voilà. Sur ces 2609 matchs, d'après vous, quel est le pourcentage de victoires, nuls et défaites?
Oh.
Wow.
Attends, 2600, mais depuis quand?
Je pense qu'on doit être à l'équilibre, non?
Apparemment.
33 dans ces eaux-là.
Eh bien, exactement. En fait, tu as 36% de victoires, 37% de défaites et 27% de nuls.
Ouais, donc, qui
en fait,
entre les descentes, ouais. Et, ouais, c'est pas déconnant. Hein.
Voilà. Je sais pas, vous faites ce que vous voulez de cette stat.
Oui,
bon, pas grand-chose.
Bon, non, pas grand-chose. Ah, c'est vrai que tu adores les stats, Anis.
J'adore.
Qui qu'a dit, j'étais conscient que quand.
Bon, je pense pas que ça fasse 100% le total. Mais
c'est vrai.
Mais.
Ah, ben, j'ai pas refait le calcul, moi, je crois, Christophe. Oui, j'avoue, c'est Christophe le dit, c'est que ça doit être pas.
Mais t'as raison.
Mais c'est
bon.
Mais bon, bordel.
C'est quoi ce bordel, Christophe?
Il doit y avoir des matchs. Peut-être des matchs arrêtés.
Des
peut-être
bordel,
des matchs.
Non,
t'as noté
des
27.
Là.
Des...
Ouais, j'ai dit 27 au milieu. Hein.
Ah non.
36, 27, 37.
Putain.
Ouais, bref.
Bon,
on refait le calcul. Qui a dit j'étais conscient.
il a arrondi.
J'étais conscient que Caen est un club historique en France. Mais chaque jour, je me rends compte que pour les joueurs, évoluer pour ce club, ce n'est pas quelque chose de facile. Aujourd'hui, pour le groupe qu'on a, c'est peut-être une marche trop élevée de jouer pour le SM Caen.
Quel cliché ?
Ouais. Mm. Donc c'est vrai qu'on fait ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on est passé très très vite.
Mais
de...
il est vraiment dans cette
très très vite de mes joueurs, ouais. C'est les meilleurs et ils progressent et ça. Ah, en fait ils ont pas le niveau pour jouer à Caen.
Non non, mais les caricatures. Ouais, parce que les deux sont pas mutuellement exclusifs. Il est arrivé avec un groupe qui l'a fait progresser. Et moi je, enfin vous me dites ce que vous pensez, mais moi je pense que le groupe dans le contenu progresse énormément par rapport au début d'année, etc. Est-ce que certains joueurs sont encore inhibés, n'arrivent pas à passer le cap mental? Tu parlais tout à l'heure. Oui, ça peut. Ouais. Mais le groupe va dans le sens, dans un sens de progression, à mon sens. Et ça, ça c'est le coach qui est derrière ça.
Tout à fait.
En revanche, je sais que, enfin, on le dit tout le temps, il y a un vrai héritage foot ici à Caen et vraiment du public. Oui, mais de dire que c'est une pression forte, enfin, franchement, il y a beaucoup de clubs où la pression est plus forte de la part des supporters. Je trouve que c'est un vrai club de gentils Malherbe en termes de supporters. Et il y a quand même bien pire que ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est Yann Mvila qui l'a dit. On parlait de ça d'éclat tout à l'heure et il a dit, je crois que c'est en Grèce ou je crois qu'il parlait de la Grèce. Ça. Il disait on faisait un nul, il y avait des mecs qui
étaient armés. Mais là tu vois la pression toi comme de la violence. Moi la pression peut exister sans la violence. Je suis d'accord, on a des supporters qui sont absolument fantastiques et qui parfois sont mécontents et qu'ils le font entendre et ça c'est normal. C'est aussi ça fait partie aussi de leur job. Mais ça veut pas dire qu'il y a pas de pression. Ouais, surtout pour les gars qui sont préparés. C'est-à-dire que quand. Mais la pression, ça peut arriver parce que tu arrives dans un club où il y a 12 000 personnes qui te regardent. C'est pas forcément les supporters qui sont méchants, qui crachent dessus.
Ils ont en l'occurrence
etc.
plutôt un soutien plus qu'une pression. Parce que dans quel autre club de national, ils auront 12 000 personnes.
Oui, mais moi, c'est marrant parce que j'ai eu cette conversation avec les supporters. On passe souvent du temps ensemble après les matchs. Et j'ai cette conversation et on s'échange. Il y a eu des statistiques comme quoi aussi, et pas que ici, beaucoup de clubs. Les équipes font plus de victoires à l'extérieur qu'à domicile. À voir s'il y a un lien, je ne sais pas. Je n'ai pas fait d'analyse psychosociale sur le truc. Mais oui, cette pression, elle va dans les deux sens. Elle soutient quand ça va bien. Et quand c'est un peu moyen, les joueurs la voient potentiellement comme une pression. Mais ça ne veut pas dire que nos supporters sont violents ou quoi que ce soit. Rien à voir, je suis d'accord avec toi à 100%. Mais pour certains, ça, quand tu rentres à Dornano et que tu as 12, 15, 16 000 personnes, 17 000 personnes... Et ça laisse pas tout le monde indifférent. Hein.
Ouais, les 17, c'est hors taxe. Enfin, c'est TTC quand même.
C'était contre Rouen, c'était pas il y a très longtemps. Ouais. Donc, c'était un bon TTC. Mais... Ouais.
Qui a dit il y a une certaine pression supplémentaire quand on joue au SM Caen? Pour ma part, il n'y a rien de plus beau de jouer devant autant de monde.
Moi, je pense que c'est le cas, mais je sais pas qui a dit ça.
Eh ben, c'est Momo Afid qui a dit ça.
Eh ben, je suis d'accord avec Momo.
Eh ben, parfait. Bon. J'en fais un.
Qui lui pour le coup ne la ressent pas cette pression parce que quand on voit quand on le voit comme ça sur le terrain à faire virevolter tout le monde on sent que...
Et d'ailleurs ça vu le contexte etc ça passe un peu sous les radars mais son but est fou.
Il
est incroyable.
Il a un peu tourné sur les réseaux.
Il a un peu tourné. Il est vraiment incroyable. Ouais. Le double contact, petit pont.
Tu le mets dans les pieds d'un joueur, tu vois, d'un Ronaldo, d'un Messi, n'importe quoi, ça fait. Ça fait 15 jours sur TikTok partout.
Il est incroyable. Et enfin, un petit dernier, Kikadi. C'est une très bonne personne, très intelligente. Kikadi, ça
ma
à propos
femme en parlant de moi, non
aussi, ça, peut-être. Pense, hein.
Je crois que c'est ça.
Ta mère en parlant de toi.
Peut-être, c'est possible. figure-toi que ça te concerne.
Ah,
Kikadi, ça de toi?
De moi en plus.
Ben
je suis flatté. Mais je sais pas.
Alors, trouver autour de la table.
Ma mère, potentiellement.
Un salarié qui a la trouille.
Non plus. Qui a dit ça?
Ça peut être plein de gens. Il y a un piège, peut-être. Il y a un truc un peu marrant.
Ouais, un peu.
Patrice Garande?
Non. Il le dit en off, peut-être. Mais
ah, vrai?
Non.
Kylian Mbappé,
si tu disais qu'il était à vrai, je ne le vivrais pas très bien.
Nico Seb?
Non.
Attends, si tu disais qu'il était
vrai, c'est quelqu'un qui est quand même attaché.
Jean-François Fortin.
Finouf, il a trouvé en coulisses. Ouais.
Mais c'est son métier.
Olaf.
C'est Olaf qui a dit ça.
Ah.
Il a retrouvé un article où il a dit ça.
Je suis très flatté. Très flatté. Voilà.
Écoute.
C'est inattendu. Hein. Personne n'y a.
Enfin, inattendu.
Je prends note pour savoir comment le prendre. C'est inattendu
qu'il soit intelligent. Attends, mais on n'aurait pas cru. Non, mais c'est inattendu d'avoir le patron du COP qui dit ça de la part du président, qui plus est dans un contexte qui n'est pas totalement fou. Voilà.
Ah non, n'empêche pas d'être objectif.
C'était avant Valenciennes, attention. C'est dans le match.
On a des bonnes relations avec tout l'AMNK, avec. On se voit de manière régulière, de manière sociale, on se voit de manière plus officielle de temps en temps au bureau. Et on a parfois on a eu l'année dernière des moments d'incompréhension, des moments de frustration, etc. Mais quand vous savez tout part d'un sentiment d'amour du club et que les deux parties veulent la réussite du club, ça, ça unit tout le monde. On trouve les moyens pour avancer.
Non, mais ce que je veux dire par là, ce qui m'a marqué, c'est notamment juste. Enfin, c'est de lire ça quand on se rappelle, notamment au moment du départ de Nico Seub où Olaf, avait un petit peu dégoupillé, on va dire. C'est assez inattendu de lire ça, mais tant mieux.
Le passé, c'est le passé. Moi, je suis toujours quelqu'un qui regarde vers l'avenir et vers le futur et la construction.
Alors, on va revenir un petit peu sur le passé quand même, parce que depuis notre dernière émission, deux matchs, le Stalmer a joué deux matchs, Caen Sochaux, Valenciennes Caen, deux défaites malheureusement. Juste en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux matchs?
On a affronté deux équipes beaucoup plus fortes que nous.
T'es sûr? Hein? Moi je dirais on a affronté une équipe qui était plus forte que nous.
Ah ouais?
Sochaux. Une équipe qui était pas plus... Moi je le vois comme qui était pas plus forte que nous. Mais où on a, je te dis, fait deux... on peut dire conneries ou pas?
Oui.
Si
tu savais tout ce qu'on sait, conneries, parce qu'on dit pas de gros mots ici.
Non, mais je suis assez... Je suis pas en désaccord avec ça, moi. Je suis pas du tout en désaccord avec ça, parce que ce qui nous bat, c'est pas Valenciennes, c'est nous-mêmes.
Ouais.
Ah bah oui.
Sur Valenciennes, ouais. Sur Sochaux, il faut être honnête.
C'est bien qu'on fait un bon début de match contre Sochaux.
Mais non, on fait un bon match.
C'est vrai aussi. Mais sur l'ensemble du match, il mérite de gagner. Alors que Valenciennes, j'ai mes doutes.
En sortant du match avec Anaïs et Seb, on était vraiment sur ce constat-là. C'est-à-dire qu'on a joué contre une équipe qui va jouer la montée et qui mérite de monter. Voilà. Et pour autant, il y avait du jeu. On avait quelque chose. Et c'est globalement ce qu'on voit depuis. Moi, je fais partie des défenseurs de Clichy pour l'instant, même si le bilan comptable n'est pas bon. C'est qu'on revoit du jeu. Par contre, Valenciennes, c'est effectivement, quand tu vois Caen Sochaux, tu te dis ah, t'as plein d'espoir. Valenciennes, j'étais plein d'espoir. Et là, c'était vraiment pas bon.
Je pense que la déception est d'autant plus forte contre Valenciennes qu'effectivement, contre Sochaux, on a vu un début de quelque chose.
Ouais, mais le coach là-dessus, il est très très focalisé sur la qualité de jeu, le contenu de jeu. Et effectivement, je suis content que vous voyez ça parce que nous, on le voit en interne. Et je suis content parce qu'une des principales raisons des changements de coach, etc., c'est de redonner un petit peu ce contenu, redonner cette qualité ou ce plaisir. Donc on le voit ça, ça ne se traduit pas encore dans les points, je suis d'accord avec toi. Mais c'est une première étape.
J'ai justement une question un peu sur l'année dernière par rapport au changement de coach. Elle est un peu pas sympa, ma question. Je sais pas si c'est toi ou si c'est ton directeur sportif qui avait parlé d'un cahier des charges pour choisir Bruno Balthazar l'année dernière. Nous, on s'est demandé quel était le cahier des charges pour avoir choisi Bruno Balthazar, parce que moi, j'avais été entraîneur des U13 de Juvisy-sur-Orge il y a quelques années, et au regard des résultats, je m'étais dit... En fait, il y avait peut-être moyen que je sois coach de Malherbe. Plus sérieusement, pourquoi non, Derzac Arian, quand il arrive pour remplacer, on s'est dit évidemment. Bon, on remplace Nico Seub, ça fait couiner parce que la situation n'est pas bonne. Derzac, il arrive, c'est un coach à poigne, on sait pourquoi il vient, c'est une opération de maintien, c'est réglé. En toute franchise, l'intermède Bruno Balthazar, enfin, je pense autour de la table, on est un peu d'accord, on n'a pas trop compris. Et on s'est dit, à quoi il ressemble ce cahier des charges?
Alors. Quand Michel arrive, c'est effectivement une autre situation. Est-ce qu'à Noël, on pensait qu'on était déjà dans cette situation? Peut-être pas. Parce que si c'était le cas, on aurait dû avoir Michel à Noël, comme tu dis, à la suite de Nicolas. Et puis ça se défend, ça se justifie, etc. Mais on n'était pas encore dans une opération maintien à ce moment-là. On était encore dans une... changer le style de jeu. Il y avait différentes problématiques. Et Bruno arrive avec, et je vais dire, c'était probablement une erreur de casting pour nous, parce que Bruno, c'est plutôt un coach qui doit arriver en début de saison, avec les joueurs qui vont avec son style de jeu à 100%, pas à 70% comme beaucoup d'entraîneurs peuvent, et avec une préparation entière tout l'été, etc., pour que ça... Parce que le jeu avait changé avec Balthazar un petit peu, alors les résultats n'étaient pas bons, on va pas se mentir. Et donc, c'est là où on a fait l'erreur, moi, je pense. C'est que de mettre un coach comme Bruno au mois de janvier, alors qu'un coach comme Bruno, ça fonctionne au mois de juin, ou ça ne fonctionne pas forcément.
Et Derzac, c'est plus un pompier qui aurait fait l'affaire.
Et Bruno n'est pas un pompier.
Ouais.
Donc, il aurait fallu, à mon avis, ou un pompier, si on pensait qu'on était vraiment dans l'incendie, on n'en était pas encore là, ou quelqu'un. Et c'est là où allait pour moi l'erreur de casting, c'est qu'on était, entre guillemets, le cul entre deux chaises sur Bruno.
Il y a quand même quelque chose sur lequel je voudrais revenir. Tu viens de dire, et je pense que c'est loin d'être faux, qu'il faut qu'un coach il puisse avoir des joueurs qui correspondent à ce qu'il souhaite faire.
Je pense que tous les coachs seraient d'accord d'ailleurs.
Évidemment, ouais. Et que pour la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'une des raisons, elle n'est pas qu'aujourd'hui, les coachs ont des durées de vie dans les clubs, je ne parle pas que de Malherbe d'ailleurs, même si évidemment ici c'est particulièrement prégnant, ou une durée de vie qui est inférieure à la durée moyenne des contrats des joueurs, et qui fait que généralement un coach, quand il arrive, il se retrouve avec des strates de joueurs qui correspondent au style du gars d'avant, aussi du style du gars d'encore auparavant, et que tous ces joueurs-là, en plus, ils ne sont pas recrutés par le coach, ils sont recrutés par quelqu'un d'autre, qui finalement n'a assez peu de comptes à rendre, hein. C'est le coach qui doit faire les conférences d'avant match, d'après match, jamais la personne qui recrute. Or pourtant c'est cette personne qui est l'architecte de l'effectif et c'est quelqu'un d'autre qui doit composer avec.
Je ne suis pas en désaccord avec toi du tout. Il y a une durée de vie des coachs qui effectivement, là je parle d'un point de vue global comme toi, qui se réduit comme peau de chagrin, tout un tas de raisons. Résultats, enfin impatience, besoin de résultats. Vous messieurs dames aussi qui mettez parfois du sel et du poivre sur les choses qui font que les gens ont besoin aussi de réagir et de trouver des leviers. Et c'est vrai que c'est dommageable parce que effectivement tu te retrouves avec des couches de joueurs qui ont été faits parfois par il y a quatre coachs parce que les mecs sont là ont des contrats de 3 ans 4 ans mais sauf que en 3 ans il y a eu 6 coachs. J'exagère un peu, mais bon. Et donc, effectivement, t'as lui qui a été un attaquant pour jouer en 4-4-2, qui a été pris par le coach JB il y a 2024. Et moi, je me retrouve, je veux jouer en je sais pas quoi. Et donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est un gros sujet. C'est un cercle ensuite. C'est un cercle. Parce que le temps que t'attends que les contrats des joueurs se terminent, tu peux pas, il faut que tu ramènes d'autres. Donc, il y a un cercle vicieux financier, un cercle vicieux stratégique, sportif. Je suis d'accord.
On a actionné, je ne compte même plus combien de fois, le même levier qui est celui du coach. Est-ce qu'il y a un autre levier à actionner à un moment ou est-ce qu'on continue à actionner tous les 6 mois
Non, on a avec Gaël, je pense qu'on a trouvé le coach qui va avec ce qu'on essaie de construire. On essaye pas seulement du côté sportif, mais aussi du côté de la personne et des valeurs. Et non que les autres n'avaient pas ces valeurs, mais on a, loin de là, c'est pas ce que je veux dire, mais qu'on a trouvé un ensemble avec Gaël, un souci de professionnalisme aussi qui est absolument dingue, de l'intensité, du caractère, un style de jeu. Et donc, pour nous, l'idée, c'est de nous projeter avec Gaël maintenant et de construire vraiment la chose qui est la plus visible, mais qui nous manque encore, qui est ce succès dans l'équipe première.
Moi, il y a une question, parce que bon, c'est vrai que Jérôme, pour titiller, parle de cahier des charges. Moi, la question que je me pose quand on voit les quatre coachs qui se sont succédés, c'est justement quel est le point commun, qu'est-ce qu'il y a dans ce cahier des charges qui fait que tu passes de Balthazar à Zakarian, de Dornano et ensuite Dornano, Clichy. Tu vois, par exemple, Dornano, dans la communication, il a été beaucoup, beaucoup insisté sur la nécessité de maîtriser sur le bout des doigts le national. On recrute un coach, Gaël Clichy, j'espère qu'il est excellent, j'en ai aucune idée, d'ailleurs personne n'en a aucune idée, qui découvre le championnat, qui, je dirais presque, découvre la France. Voilà, quelle est la cohérence
Alors,
dans tout ça?
Le cahier des charges, il change selon la situation.
D'accord.
Je ne sais pas si tu es marié, si tu as des enfants.
Mais j'évite d'en parler parce que ce n'est pas facile tous les jours.
Ton cahier des charges pour acheter ta maison quand tu étais seul avec madame est différent de quand on a 3 enfants.
Je ne te le fais pas dire.
donc, les cahiers des charges ont changé selon les situations. Les réflexions qu'on avait quand il y a Michel, la situation où Michel arrive est différente de quand Maxime arrive l'été passé, etc.
Okay.
Cette année, pour revenir à cette année, parce que je pense que c'est la genèse de ta question, cette année, nous, ce qu'on a essayé, le cahier des charges en arrivant, c'était il nous faut un cocktail de connaissances du national, mais également une certaine maturité avec des joueurs qui arrivent de Ligue 2 et qui ont plus de bouteilles, entre guillemets, parce qu'il faut trouver cet équilibre. Voilà ce qu'on essayait de chercher. Comment on fait ça avec des joueurs de National, des joueurs de Ligue 2, avec un coach de National, avec des prépas qui connaissent bien le physique du National. Donc voilà un peu ce qu'on a essayé de faire comme cocktail pour cette année.
Et
le cas des charges était différent.
Qu'est-ce qui fait, à ton sens, que ça n'a pas marché?
Cette année, alors déjà, effectivement, pour moi, pour le moment, ça n'a pas marché. On voulait que l'équipe soit bien plus haut à cette époque de l'année. L'ambition était forte, même si on doit s'avouer que dès le début, on savait que les yo-yo, ça arrive très, très peu, l'équipe qui descend, qui remonte tout de suite. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'était pas ambitieux. On voulait, comme je l'ai dit depuis le début, être ambitieux le plus longtemps possible et gagner le maximum de points et puis advienne que pourra. On n'est pas là où on veut être. Clairement, je pense que c'est peut-être le dosage entre national versus plus de Ligue 2, etc., n'a pas été bien fait potentiellement. Peut-être, on parlait tout à l'heure de la pression. Certains, on avait peut-être sous-estimé la pression que certains allaient ressentir en arrivant à Dornano, en arrivant avec un club avec une certaine, et je mets les guillemets, pression. Avec un besoin de résultats, surtout après l'année dernière, etc., etc. Donc, c'est peut-être toutes ces choses-là qui font que ça ne fonctionne pas. Comment est-ce qu'on voit le reste de la saison ? Il faut absolument qu'on se batte pour chaque match, qu'on ait un maximum de points, qu'on fasse plaisir aux gens et que surtout qu'il y ait une dynamique positive pour préparer la saison prochaine. Je pense que la montée, ça commence à être très, très compliqué. Donc, on ne va pas se dire des bêtises. Par contre, les deux encore ne sont pas mutuellement exclusifs. Ce n'est pas parce que on pense que la montée est difficile, qu'on ne va pas aller taper chaque point et chaque équipe, parce qu'il y a toujours une préparation de l'année prochaine. Même en septembre, on prépare la... Et puis, il faut terminer de manière positive. Et puis, moi, je reviens toujours à ça. Il faut donner du plaisir aux gens quand ils sont au stade, quand ils regardent à la télé. Et ça passe aussi par des victoires et par du contenu.
Moi, ça m'amène deux questions. C'est, donc, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à date, c'est quoi l'objectif du Stade Malherbe pour la fin de saison ?
Pardon, je vais me répéter un petit peu, mais c'est ça, c'est aller marquer un maximum de points, c'est faire plaisir aux gens, c'est jouer avec le contenu que le coach veut mettre en place, et c'est préparer au maximum la saison qui arrive. Okay. Si ta question c'est est-ce qu'on joue la montée ?
Oui.
Je te dis, je pense que c'est très compliqué de jouer la montée. Moi, je ne l'ai pas en tête, la montée.
Et à l'inverse, est-ce qu'on joue le maintien ?
On joue, pour moi, plus que le maintien. Non, il faut. Mais tu sais quoi, le maintien, mettons-le bien derrière nous en ayant cherché un maximum, maximum de points à chaque match.
Comment on fait, parce que je pense que la tâche ne va pas être simple, pour préparer la saison prochaine avec un effectif de la saison prochaine, de toute façon, qui risque d'être quand même très très différent. Le national, les joueurs ne font pas forcément de vieux os. On a Didi qui va partir, on a Sagnan qui va repartir, évidemment. Je pense que la tâche n'est pas simple.
Notre défense centrale, quoi.
Eh ben, on commence à bosser.
Le gardien aussi.
On commence à bosser il y a un mois. Et on prépare dès à présent avec encore, parce qu'il faut, on n'a peut-être pas fait les bons dosages, mais il faut quand même avoir ce cocktail à l'esprit. C'est-à-dire que l'année prochaine, il faudra trouver le bon équilibre entre des joueurs qui ont un petit peu d'expérience en national. Nous aussi, on a maintenant un peu d'expérience en national. On arrive en national, le club, les dirigeants, les joueurs, le staff technique, etc., etc. Très peu ont de l'expérience de national. Donc, on a gagné maintenant un petit peu, on a été éduqué un petit peu sur ce sujet-là. Et donc, l'année prochaine, je pense, pour l'année prochaine, à faire cette saison-là, ce dosage, on aura une meilleure, je pense, possibilité de le faire entre les joueurs qui doivent arriver de national, les joueurs qui doivent arriver de Ligue 2. Mais il faut garder un équipe. Tu ne peux pas avoir qu'une équipe de national. Et je pense qu'avoir qu'une équipe de Ligue 2 qui arrive de je ne sais où, et qui prennent 3 mois pour comprendre comment on joue face à Villefranche, Bourg, etc., etc., ça serait aussi une perte de temps.
Et j'avais une question justement sur cette partie de renouvellement de l'effectif, c'est qu'on a relativement peu de joueurs en fin de contrat. À quel point ça va être facile de justement faire sortir, entre guillemets, certains joueurs qui n'auront peut-être pas leur place à l'avenir ?
Ça, c'est le boulot de l'équipe sportive à mettre en place avec le coach. Le coach est déjà en projection, toute l'équipe est déjà en projection pour l'année prochaine. Et il faudra voir qui reste, qui part et comment. Mais ce qui va être absolument indispensable, c'est de mettre en place l'équipe l'année prochaine. Et ce qu'il faudra faire pour l'atteindre, et ben, ça sera
alors, moi, j'ai encore une question. Non, pardon.
Voilà. Ouais, l'émission, ça continue. On a bien mis les étoiles qu'il fallait au bon endroit. On a bien commenté sur les réseaux sociaux. Je vois des questions partout. Là, tout le monde lève la main. Allez, vas-y, Seb.
Oui, moi, j'ai une question sur justement sur le profil, des joueurs. Quand on dit on va chercher des joueurs de Ligue 2, etc., donc pour le prochain mercato.
Pas forcément de Ligue 2, je veux dire.
Non, mais d'un niveau, voilà.
Ça peut être de l'étranger, ça peut être.
Est-ce que c'est ça qui est gage de réussite, sachant que. Alors, désolé de les nommer, mais quand on regarde sur le terrain, des joueurs comme Rajo, comme Henry, qui sont censés être des super joueurs de Ligue 2, sont des joueurs qui n'ont pas le niveau national. C'est mon avis.
Je pose le partage.
Je pose ça là.
Alors, moi, je ne parlerai pas de joueurs en particulier. Surtout que j'ai beaucoup de respect pour ces deux,
hommes. Et c'est deux mecs adorables. D'ailleurs, Henry, on l'a reçu, il est adorable.
Mais la réalité est que ça ne suffit pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut ce dosage. Il faut ce dosage. Il faut que très vite ce cocktail prenne. Et ça, ce n'est pas qu'au niveau des joueurs aussi. C'est au niveau du staff, c'est au niveau du coach, c'est au niveau de que ça se crée. Mais c'est pas suffisant.
Est-ce qu'on est en train de se dire que là peut-être notre plus gros problème en effet cette saison, c'est de faire travailler ensemble cette équipe-là et ces joueurs-là. Moi, ce qui m'interpelle,
ils travaillent extrêmement bien ensemble. Ça je veux.
Le vestiaire vit bien. Le groupe vit bien.
Alors pour reprendre tes mots, le groupe vit ultra bien. On a
le
un vestiaire
foot, beaucoup moins bien par contre.
On a non mais ce sont deux choses différentes. On a un vestiaire. Je te dirais pas ça de l'année dernière.
Okay.
On a un vestiaire et là j'ai vraiment deux.
Pourtant on le disait.
Là j'ai vraiment deux vestiaires. On a un vestiaire avec des gars dedans qui sont des gens très bien, qui vivent très bien ensemble, qui ont envie et où t'as pas de sujet de clan, de je ne sais pas quoi, de trucs, etc.
Comme on avait
l'année dernière, absolument.
Et par exemple, moi, je reviens sur les déclats d'Emvila, qui avait déjà un peu haussé le ton, mais là, il est quand même allé très fort après le match de Valenciennes. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, comment ça se passe derrière le lendemain, quand tout le monde se recroise après avoir lu ce qu'il a dit post-match.
Mais je crois que limite, sur une déclaration comme ça, d'abord, tout le monde comprend que c'est sous le
à chaud
oui. Mais surtout, il n'y a pas de comment dire, personne ne met la tête dans le sable. Il n'y a pas d'autruche dans le vestiaire. Les gars se regardent parce que justement ça vit bien. Ils se regardent et ils disent on n'a pas bien joué, on a déconné pendant 30 minutes, on s'est pris de but, c'est inacceptable. On a la semaine prochaine pour ce. Donc, si vous avez un joueur qui sort là et qui vous dit on a fait un super match contre Valenciennes la première mi-temps, etc., là je me poserai des questions. Mais ce qu'a dit Yann sur le fait que on n'a pas joué comme il fallait en première mi-temps, je pense que tout le monde s'y...
On a vu le même match.
Ouais. Parce que suite à ces déclats, et j'en fais partie, hein, y a quand même des gens qui ont dit est-ce qu'il ne fait pas un petit peu partie du problème le capitaine aussi ? Parce que c'est vrai qu'il ne disait pas qu'il s'incluait dedans, mais c'était pas hyper clair là-dessus. Et moi, ça m'a questionné sur... On parlait de statut tout à l'heure. Ce dosage sur un mec... et il n'est pas le seul. Hein, lui, c'est un ex-international. Il y en a qui prétendent l'être. Et puis d'autres qui ont un niveau vraiment différent et surtout qui ne sont pas sur la même trajectoire et plus en début de carrière. Je trouve que c'est assez compliqué, ce statut que certains se donnent ou ont en arrivant. Et moi, j'ai perçu ça aussi de la part d'Emvila comme une façon d'être un petit peu à l'écart du groupe. Et j'ai trouvé que ça pouvait être un peu discutable.
Il n'est pas du tout à l'écart. Il n'est pas du tout à l'écart. Encore une fois, ça doit être une déclaration à chaud. Il n'est pas du tout à l'écart. Le groupe est très soudé. Et c'est pas comme s'il arrive avec un statut. C'est que Yann a de l'expérience, qu'on le veuille ou non. Il a de l'expérience, il a fait plus de matchs, il a fait des matchs en jeu, il a fait des matchs avec pression, il a fait des matchs à 80 000 supporters, etc. Enfin,
spectateurs,
merci. Donc il a, qu'on le veuille ou non, ça, ce sont des choses que d'autres n'ont pas. Et donc ça lui donne aussi, à mon avis, une certaine mission sur certains sujets. Il n'est pas traité différemment, il n'est pas... Et au contraire, il est très travailleur, mais vous le voyez, il est toujours en train d'essayer de sur le terrain, quoi.
On va reprendre les questions à Ziad juste après. Anaïs,
oui,
tu nous as...
Moi.
Bah oui, encore toi, oh. Tu as gardé le micro.
Oui, je ne sais pas si tu sais, Ziad, mais tu as un petit surnom qui t'a été donné. est-ce que tu le sais ?
On m'en a parlé.
Ah.
On m'en a parlé, ouais.
Donc
ouais.
Tu connais Ziad GPT, alors ?
Alors, on m'en a parlé.
Est-ce que... comment t'expliquer pourquoi ? L'idée, c'est qu'en effet, c'est toujours nickel, hein, ce que tu nous dis, globalement. Mais parfois, ça manque peut-être un petit peu d'aspérité. Ou parfois, on peut se demander si on ne pourrait pas l'entendre sur un autre club aussi. C'est un peu ça qui fait que tu as été affublé de ce surnom. Et du coup, je voulais te proposer un petit jeu. Essayez de reconnaître si une citation est issue de ChatGPT ou de ZiadGPT.
Tu veux bien te prêter au jeu, Ziad.
Allez.
Par contre, je suis pas forcément en accord avec ce que tu dis depuis le début.
Mais vas-y, c'est l'occasion.
Si j'explique pourquoi, c'est pour que tu puisses rebondir là-dessus aussi.
Non, parce que moi, je pense pas que mes réponses soient préparées, en l'occurrence de ChatGPT, mais tout ce que je dis, en général, je le pense à 100%. OK ? Je ne suis pas en train d'essayer ou de caresser quelqu'un dans le sens du poil ou j'ai pas à le faire, finalement. Donc voyons voir.
Mais peut-être que c'est ChatGPT qui te copie.
Je n'irai pas jusque-là. Même ma mère n'irait pas jusque-là.
J'espère que tu as déposé le brevet. Que,
dans Ziad, il y a IA.
Il y a IA, c'est pour ça.
Oui, ça viendra peut-être.
À la base, c'est aussi pour ça.
Mais j'ai mal écrit d'habitude, je le mets en majuscule sur le producteur.
Bon, allez, une première citation. Je ne vais pas vous mentir, notre saison n'est pour l'instant pas à la hauteur des attentes. Notre classement n'est pas acceptable. Mais je veux vous dire une chose essentielle, nous n'avons pas abandonné notre ambition.
Ça, c'est Ziad.
Ça, c'est moi, il me semble.
Non.
Non. Mais ça, je l'ai dit, moi. C'est pour ça que je dis.
Je comprends que l'amour apporte de la déception et que la déception actuelle peut se transformer en inquiétude. Je suis quelqu'un qui a tendance à me focaliser sur la construction de ce qui arrive. Je reste donc dans un état d'esprit d'ambition.
Non, mais l'autre, je l'ai dit. Non, l'autre phrase, je suis sûr que je l'ai dit.
Eh ben, pense que ChatGPT te copie.
Non, l'autre phrase, mais après, ça dépend ce que tu demandes à ChatGPT. Si tu lui dis « Hey, ChatGPT, donne-moi les phrases que Ziad Hamoud pourrait dire. »
Ah non, et voilà, je lui ai même pas donné le nom du club.
Non, mais cette phrase, je l'ai dit. Moi, je suis certain d'avoir dit. Mais je vais dire pourquoi. Parce que c'est une phrase que j'ai ressentie il y a quelques mois, en début de saison, quand on n'était pas là où on voulait, au mois d'octobre, novembre. C'était mon sentiment. On était loin d'être là où on voulait, mais on ne lâchait pas, etc. On ne lâche jamais, d'ailleurs. Et donc, j'aurais pu la dire.
Bah c'est marrant parce que je l'ai questionné un petit peu à différents moments en lui disant si ton club se trouvait à ce moment-là, dans cette situation-là, pour avoir différents degrés de réaction.
Mais
tu
t'imagines Anaïs en train de dire, tu lui poses une question sur octobre-novembre, voilà la situation du club, qu'est-ce que tu dirais ? Et qu'ils te disent, ah c'est top, on a perdu 3 matchs d'affilée, je suis trop content, c'est la fête. Tu peux pas, il faut que ça aille avec la situation.
Alors, j'en ai une autre. Un club, ce n'est pas seulement des dirigeants et des joueurs, c'est une communauté. Dans les moments faciles, tout le monde applaudit. Dans les moments difficiles, les vrais clubs se reconnaissent à la force de leurs supporters. C'est beau.
C'est beau, je ne sais pas qui l'a dit. Je le sens, je le ressens ça, donc j'aurais pu le dire, mais je ne sais pas si c'est moi qui l'ai dit ou pas.
Non. Non, c'est ChatGPT qui est pas mauvais sur flatter les supporters.
Ça, je suis à 100% avec Chat là-dessus. Je pense que ce ne sont clairement pas que des joueurs et des dirigeants. Les parties prenantes que sont les supporters, les partenaires, il ne faut pas oublier les partenaires aussi, les partenaires du club qui apportent énormément au club. Les autorités locales, etc., etc. Toutes ces parties prenantes-là, c'est ce qui fait un club. Finalement, sans ça... C'est plus du tout ni une communauté, ni un club.
Focalisons-nous sur l'avenir en se retroussant les manches.
Ça, j'aurais pu le dire aussi, parce que moi, je suis quelqu'un qui regarde que de l'avant.
C'est toi. Cette fois, c'est toi.
mais alors, comment tu te retrousses les manches avec une doudoune sans manches ?
Oui, c'est vrai. Justement, c'est plus facile.
Ah, ok.
Retrousser ce qui est en dessous de la doudoune.
Ah, ok, d'accord.
Tu sais, je suis un méditerranéen, moi. Donc, quand j'arrive au pôle Nord, comme ici, à peu près, sur à Paris, je mets la doudoune sans manches, ça me permet de ne pas avoir froid, mais de continuer à bosser tranquillement sur l'ordinateur.
Bien joué.
Et de vendre des voitures aussi, au passage.
Et de vendre des voitures.
Les concessionnaires, ils ont tout ça.
Il fait froid dans les concessions. Ouais.
Encore une. Allez, la saison dernière a été un échec. On ne va pas l'enrober de mots. On a failli collectivement, dirigeants, staff, joueurs. Et quand on se trompe, on assume.
Je sais pas. Je ne sais pas pareil.
Non,
je
là, c'est ChatGPT qui assume.
Mais il faut toujours assumer.
Est-ce que Ziad, tout ça, c'est pas lié au job, en fait ? Est-ce que la communication publique, et particulièrement dans la situation dans laquelle Stade Malherbe depuis un moment, ça n'induit pas forcément d'avoir un discours, je vais pas dire lisse, mais en tout cas très maîtrisé ?
Vous avez l'impression que c'est lisse et maîtrisé comme si c'était préparé. C'est pas lisse et maîtrisé comme préparé. C'est moi j'ai ni un comme trainer ni un.
Non, bien
d'ailleurs,
sûr.
On me reproche tout et son contraire. Sans qu'on me dise il est nul en com, il parle pas assez. Après on dit ouais tout est lisse, tout est maîtrisé. Et c'est pas le cas. La réalité c'est que non, il y a rien qui est préparé. C'est juste les sentiments à un moment T. Par contre, ce qui est vrai, c'est que moi, je dois aussi communiquer certaines choses à certaines personnes, garder certains équilibres. C'est un job qui je ne peux pas m'emporter. Je sais qu'il y en a qui le font. S'emporter après des matchs, faire des déclarations dans la presse en disant « lui, c'est un naze, lui, c'est un je ne sais pas quoi », etc. Je ne peux pas faire ça. Moi, je pense que c'est donner une mauvaise image du club. Une de mes responsabilités, moi, c'est de donner une image du club qui soit respectable, qui soit inclusive, qui soit travailleuse, qui soit et qui soit positive et qui se dirige vers l'avenir toujours, surtout dans les moments compliqués comme on a eu l'occasion. Donc c'est juste la vérité. Et entre toi et moi et les autres, c'est la personne que je suis. Moi, je suis quelqu'un de super positif, de super ambitieux dans ce que j'ai envie de faire, dans ce que j'ai envie de construire, etc. Donc me demander à moi de faire le misérable, de faire putain, c'est dur, on veut pas s'en... moi je peux pas, j'arrive pas. Même si on est au fond du trou, c'est comme ça que j'ai été éduqué, c'est comme ça que j'ai vécu mes premières années, etc. Même si on est au fond du trou, tu retrousses tes manches sans la doudoune, tu bosses et tu avances. Bon. Et voilà.
Et ça veut dire que tu tiens le coup moralement. Et une autre question que je me pose, allons-y, cash. Est-ce que tu as quelque chose à répondre à la question qui dit que tu passes plus de temps à Madrid, voire à Paris, qu'à Caen ?
Qu'est-ce que dit ChatGPT là-dessus ?
ChatGPT a analysé tes... ChatGPT est partout.
Non, mais c'est aussi un des... Ça, je t'avoue que ça me frustre un peu parce que c'est un des espèces de mythes qui sont arrivés quand je suis arrivé. Ouais. Il se trouve que ma famille vit à Madrid.
Oui.
La réalité, c'est que moi, je suis très peu à Madrid. Moi, je suis environ... Je l'avais parlé dès le début de manière très, très, très ouverte. Je suis 2-3 jours à Caen, au club, selon les... Et je dis en moyenne, parce que parfois, je suis là toute la semaine. Parfois, je suis là qu'un seul jour. Donc, en moyenne, on va dire, je suis 2-3 jours par semaine. Et le reste, je suis ou à Paris, où on a les bureaux de Interconnected dont on parlait, où c'est toutes les différentes activités qu'on fait avec Kylian et d'autres. Et où je suis en voyage, si je dois être, par exemple, je viens de passer une semaine où on a pu générer pas mal de fonds pour le club, justement, pour la saison prochaine, etc. Donc, j'ai des responsabilités qui font aussi que je ne peux pas être là 5 jours sur 5, mais qui ont des liens avec ce qu'on fait ici. Mais ça, c'est un truc qui me... Oui, mais après...
Ça m'interpelle. Des fonds pour le club ?
Oui, je veux dire des partenaires, des sponsors. Pas la légende aussi qui dit qu'on vend le club demain. Parce qu'il y en a beaucoup des légendes comme ça. J'ai entendu aussi qu'on avait vendu le club, même pas qu'on voulait vendre le club, qu'il était vendu déjà. On m'a déjà dit.
Ça reste entre nous.
Entre nous.
Parce que j'ai vidé le livret A. Et...
Entre nous, le club n'est pas vendu.
Ah bon, le club n'est pas vendu. Mais par contre, alors j'ai une question très pointue pour toi, Ziad. Est-ce que tu as Disney Plus ?
Non, je n'ai pas Disney Plus.
Eh ben, tu devrais le prendre. Est-ce que tu sais pourquoi tu devrais le prendre ?
Non, tu vas me le dire.
Pour regarder une série qui s'appelle Welcome to Wrexham. Et je te jure...
Ah oui, Ziad, oui, je connais...
Est-ce que tu l'as regardé ?
Non, je ne l'ai pas regardé, mais je sais de quoi tu parles.
S'il te plaît, regarde-le. les autres, je sais, j'en ai déjà parlé. En fait, mais pourquoi je te pose cette question-là ? Parce que derrière, moi, ça m'amène une autre question qui est de se dire... On le sait, Kylian Mbappé a investi de l'argent, beaucoup d'argent, pour le Stade Malherbe. Et en fait, cet investissement, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Il permet de faire en sorte que le club ne dépose pas le bilan, ne coule pas, et entre guillemets, se maintienne à flot.
Non, plus que ça. Le club, ça, c'est la base, étape numéro un.
Ouais.
Ensuite, avec ça, tu reconstruis et tu te projettes vers l'avenir et vers la croissance.
Et la question, du coup, ok, j'entends, mais la question que je me pose derrière, c'est est-ce que derrière, quand tu vois justement ce qu'ont fait les deux investisseurs, là, comment Ryan Reynolds et je sais plus comment il s'appelle,
je vois de qui tu parles,
qui eux, justement, tu le vois dans le documentaire. Alors, on sait, c'est du Disney, c'est romancé, etc. Mais n'empêche que tu les vois vraiment être en train de se dire, non, mais nous, l'année prochaine, c'est forcément, on monte, du coup, on fait les investissements, on prend que des joueurs qui ont un niveau, voire deux niveaux au-dessus. pour littéralement écraser le championnat. Et derrière, ils font ce qu'on appelle le back-to-back-to-back. Ils font trois montées consécutives.
Il t'a spoilé toute la série là.
Je l'ai pas vu, mais je sais exactement de quoi
il parle. Et donc, si tu veux, je sais que c'est très facile à dire. Moi, perso, j'ai pas un euro à mettre dans le club. Mais est-ce que, genre, avec le petit chèque que vient de se recevoir Kylian, on pourrait pas faire ce genre de choses? Il paraît qu'il a reçu un petit chèque en provenance de Paris.
Il y a deux choses super importantes dans ce que tu dis. Numéro un, c'est la remise à flot du club et la construction des fondations, parce que ce qu'on est en train de faire aussi depuis un an, c'est toute une restructuration financière qui maintenant arrive à terme, qui a des côtés super positifs, un côté négatif qui est aussi qu'on est passé par un PSE, et ça c'était assez compliqué pour tout le monde, en premier lieu pour les personnes concernées. Mais il y a toute une restructuration qui descend énormément, qui réduit énormément les déficits et qui permet que le club, demain, avec une montée, soit stable et qu'on puisse travailler maintenant sur une reconstruction pour le futur et pour la croissance. Numéro 1. Numéro 2, ce que tu me racontes, c'est dans un système très particulier. C'est l'Angleterre, avec des sous, beaucoup de sous, parce que moi, je peux te dire que ce qui a été mis par ces gens-là, perso, est moins que ce que nous avons mis dans ce club. Beaucoup d'argent dans les championnats anglais viennent des droits télé. Même la division 3 ou la division 4 touche des 40-50 millions par an.
Ok.
Okay, donc quand on dit j'investis 10 millions, si ça vient des droits télé... Et en troisième point qui est important, et ça c'était une décision nôtre, à tort ou à raison, on pourra en décider, parce que je suis le premier à dire qu'on fait des erreurs, c'est qu'on a décidé, avec l'investissement dans le Stade Malherbe, de ne pas se transformer en espèce de bling-bling parisien, de Kylian qui vient faire son truc. Ce qui m'a fait marrer d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, on nous l'a reproché, et en même temps, on nous a reproché le contraire. Moi, si je viens... D'ailleurs, ce n'est pas notre ADN ici en France. Okay, c'est très anglo-saxon. Mais si je viens et que je commence à mettre du Kylian, du bling-bling, des caméras partout, etc., d'abord, ce n'est pas l'ADN du stade. On nous le reprocherait. Et ce n'est pas du tout ce que nous voulons faire ici. Nous voulons ici, nous avons un projet sportif qui pour l'instant n'est pas encore là où il est. On a un projet de société avec le centre de formation. On travaille énormément sur aussi générer des hommes, mais pas des footballeurs, avec les valeurs, avec tout ce qui est professionnalisation, le scolaire, l'éducation, tout ça. Et ça, c'est un peu ça ne marche pas avec... avec des caméras partout, avec du Kylian qui met des postes à tous les sens, etc. Est-ce que c'était une erreur ? À voir, mais c'est le choix qu'on a pris de rester humble, de rester tranquille, de travailler, et puis que les résultats allaient montrer un petit peu ce qu'était.
Merci, Ziad. Alors, Dim, tu nous as préparé un petit jeu.
Oui, c'est ça. Alors, c'est un jeu à mon image, en fait, puisque... alors, c'est un très simple...
ça fait marrer JB.
Non, en fait, tout simplement parce que même si j'ai toujours été supporter de Malherbe, j'ai déjà été abonné dans le stade de notre adversaire du soir Châteauroux avant d'être abonné. Donc le jeu, ça va être
X. Le jeu, c'est Footix, pas Footix.
Le jeu, ça va être de retrouver justement, de citer chacun son tour, un joueur qui est passé par les deux clubs. L'avantage, c'est que vous avez tous au moins une réponse qui vous saute aux yeux. Oh, et qu'au pire, même si vous ne l'avez pas, JB l'aura forcément.
Qui commence ?
Comme vous voulez.
C'est important.
Ah, oui.
Allez, je commence.
Oui, bah vas-y.
Manu Mourou.
C'était celui que j'avais cité. Couille.
Oui,
Couille. Oui, c'est le surnom d'Alex Reynaud.
Je sais que tu me parlais pas.
Non, pas encore.
Il faut savoir que c'est
bien plus tard, Ziad.
Il faut savoir qu'avec avec mon frère hier, on les a tous classés dans une tier liste à deux, et qu'il y a un certain nombre.
Sympa vos soirées, dis donc.
Il y a un certain nombre de mecs en bons joueurs quand même qui sont sortis.
Sur moi,
non, mais alors.
C'est Aziad.
C'est Aziad. Énorme chance.
Un joueur qui a joué à Caen et Châteauroux.
À Paris et Châteauroux, il l'aurait peut-être plus Aziad.
Moi, j'ai un dirigeant que je connais qui a fait les deux, mais c'est Denisot.
Ah oui, Paris Châteauroux.
Non, Teddy Bertin. Tu as dû faire Paris Châteauroux.
Bon, allez, alors JB maintenant.
Alors, moi, je vais tenter un Stéphane de devant.
Oui.
Ah oui, c'est vrai. Oh oui, qu'est-ce que c'était moche qu'il aille là-bas. Pardon.
Je crois que j'en ai un.
Vas-y.
Oui, ça m'arrive. Je sais pas pourquoi c'est lui qui est revenu. Romain Inès.
Oui.
Ouh,
bien joué. Eh
oui.
Ouh la vache.
Alors on l'a pas mis dans la plus haute catégorie de la tier list.
Non mais là il y a la technique quand même.
Mais où t'as sorti ça?
Moi je sors le Joker JB.
Il vous manque le GOAT de la tier list en tout cas. Le GOAT.
Moi j'en ai deux. Attends, Yannick Mbonné.
Oui, bien.
Sabi par la chat GPT.
Non, j'ai pas. J'ai pas ça.
Le GOAT, c'est un milieu de terrain, un meneur de jeu qui a joué à Malherbe fin des années 2000, début des années 2010. Qui a fini sa carrière à plus de 40 ans.
Nivet, il a joué là-bas.
Ouais.
Après Auxerre, bah,
quand j'étais enfant, j'ai connu Nivet à Châteauroux avant.
Et j'ai un doute, moi, avec Aurélien Montaroux.
Non.
Vas-y,
JB.
Non, lui, il a joué à Rennes et à Caen. Formé à Rennes et joué à Caen.
Et jugé à Rennes aussi.
Ah non. Il en dit trop.
Ah non, pardon, c'est pas lui. Alors, moi, je vais relancer d'un Raphaël Guerreiro.
Oui, bien sûr.
Ah, Raphaël.
Un attaquant fin des années 2000 aussi qui est...
Oui, attends.
On peut faire rentrer Finouf ou pas pour ce jeu?
Ouais, Finouf, il est trop fort.
Allez, Finouf.
Il est un joueur, Finouf.
Qui est un bon attaquant qu'on considère un peu sous-coté parce qu'il était...
Ah si, merde.
Qui venait de Saint-Etienne.
Sanson?
Non,
mais l'autre. Non, c'est Lilian Compan.
C'est
Lilian Compan qui a été là-bas. Il sortait de Cannes.
Joué à Châteauroux.
C'est ça.
Chaker à la dure, il était là-bas.
Oui, bien sûr.
Chaker à la dure, putain. Et gardien, il n'y en a pas un gardien?
J'ai pas de vérifié. Non, j'ai pas de gardien. Non, il y a par contre y a un attaquant très très connu qui a été en équipe de France.
C'est évident.
Ouais.
Il a joué à Châteauroux.
Il a joué. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que tu regardes son bilan à Châteauroux, 22 matchs, 3 buts, et 5 ans plus tard, il est en équipe de France. Voilà.
Pas très longtemps.
Voilà, pas très longtemps. Mais voilà.
Bon, on a fait tout le plus fort, j'imagine.
Là, y en a un dernier, un défenseur central qu'Anaïs aime beaucoup.
Pour de vrai ou...
Oui.
Proms de Grey.
Oui. Qui a joué dans les années 2010, il y a quelques années, quand on était en Ligue 1.
Urto?
Non, Daminou, plus récent. Oui,
Daminou,
oui, Daminou. Voilà, exact. Là, on a fait tout, on a fait l'élite, là.
Merci,
voilà.
C'était très sympa pour moi.
Pas mal,
Anaïs.
Peut-être
que je vous ai battu.
Non, je crois que tu as gagné. Tu n'es pas que en retard, tu connais aussi ton football.
Alors, JB, juste avant que tu fasses ta chronique, il y a Seb qui a absolument envie de poser une question.
J'ai envie de te poser une question parce que je sais que, en fait, voilà, je te pose des questions que beaucoup de supporters peuvent se poser. On le voit sur les forums, etc. Aujourd'hui, c'est quoi le rôle au sein du club de Pierre-Antoine Capeton?
Pierre-Antoine, il est actionnaire. Il n'est pas dans l'opérationnel, je veux dire.
On est d'accord, donc il a 20, à peu près 20% des parts.
Il est actionnaire. Et,
mais est-ce qu'il a un autre rôle que celui de posséder 20% des parts?
Il est au conseil d'administration, on se réunit, on se parle, on discute, ce que fait un conseil d'administration, etc. Il n'est pas dans le jour...
Il n'est pas dans l'opérationnel.
Dans l'opérationnel day-to-day, comme on dit, au jour le jour.
Ce qui était le cas avant.
Ouais.
Ok.
Non, parce que oui, c'est fait, j'ai entendu aussi des... Non, il est là, on s'entend très bien, il n'y a pas de sujet. C'est partie des légendes urbaines aussi, je pense.
Ben justement, j'en profite pour lever les légendes urbaines.
Absolument. Absolument.
Ouais, alors vas-y. Non,
on parle beaucoup de l'équipe masculine, mais il y a un événement quand même important, c'est la semaine prochaine.
Et je suis très content que tu en parles parce que je voulais en parler.
Entre mon club,
on est à 3000, c'est ça?
Ouais. J'espère
plus de 3000.
Donc on est très content d'avoir les filles. Ça fait partie de ces succès dont on faisait allusion, auxquels on faisait allusion au départ, avec les jeunes et avec le centre de formation. Elles ont fait un super parcours. Ouais. On est super fiers d'elles. Et le moindre qu'on pouvait faire, c'était d'avoir Dornano ouvert à nos filles. Et on fera une très très belle fête. Et j'espère qu'on sera nombreux et on est en train de faire en sorte qu'on soit le plus nombreux possible pour pousser.
Un départ de Bayeux, ça t'intéresse
déjà. Et pour la Gambardella?
Et pour la Gambardella,
on affronte le PSG.
Alors
déjà, tu seras pour qui?
Arrête.
Non, je demande.
Arrête. Tu vois, les légendes urbaines, elles partent comme ça.
Oh merde, ça va être de ma faute maintenant.
Supporter de Madrid, pas de.
C'est demain dans la presse.
Je t'ai dit Juventus et Real Madrid. Hein.
C'est vrai.
Non, on est pareil, très fiers de nos gars. Ouais. Et là, on est en conversation pour voir où on joue. Ça va être vraiment le choix du.
Il y a moyen d'avoir du monde à Dornano, je pense.
Et mais à eux de choisir où ils veulent jouer d'un point de vue stratégico-technique.
Ah. Okay.
Donc on est en conversation, mais ils savent très bien que Dornano est plus couvert et sera plus que
probablement bien garni si c'est
voilà exactement si c'est le choix.
Sinon on peut jouer sur le stade municipal de Saint-André-sur-Orne, je pense qu'il est dispo et ça peut perturber
le PSG.
Alors JB,
Alors moi je sais pas ce que tu vas faire, tu m'as dit j'ai 3-4 minutes.
À peu près, c'est ce que il me faut toujours. Alors bon, moi je vais être honnête, hein, je me suis pas trop foulé, hein, j'ai fait du réchauffé. J'ai pris une ancienne chronique qui avait bien marché et puis voilà quoi. Donc prendre un vieux truc qui a bien marché hier, avant-hier, pour structurer ce que tu fais aujourd'hui au motif que bah ouais mais à l'époque ça avait marché du feu de deux, il y a pas de raison que ça marche pas. C'est ce qu'on appelle dans le milieu à point de basse la jurisprudence M. Villa. Ah bah je balance moi, hein, je voilà, j'ai pas peur, je dis les choses, je dis les termes. Puis quoi ? Il va venir me casser les genoux ? Et alors ? Il montre à chaque match qu'on peut vivre très bien sans. Donc, pas de soucis, pas de soucis. Bon, alors, le SM Caen, qui n'a jamais autant mérité son SM, est dans une situation... Une situation. Alors, on a un actionnaire qui est venu avec un projet, et quoi qu'on en dise, il est venu et il a donné les moyens à ce projet, les moyens de sa réalisation. En d'autres termes, il a donc déjà mis, en réalité, dans l'affaire, pas mal de pognon.
Sans patate.
Mais... Il se trouve que nous, ici à Malherbe, on sait que l'argent, ça suffit pas, enfin, ça fait pas tout. C'est malheureusement pas preuve de valeur ou de crédibilité, et d'ailleurs, nous, on le sait très bien, depuis certains transferts hein, dont les résultats n'ont pas forcément toujours été à la hauteur de l'investissement.
Est-ce que vous connaissez Yacine Bamou ?
Non.
Yacine Bamou, ça vous parle ?
Non. Alors, quoi qu'il en soit, au démarrage de ce projet, on s'attendait à être au moins en capacité de jouer la montée de manière crédible en L1. Puis bon, bah là, là, on est surtout content d'être capable de jouer de manière crédible. Alors, pas la montée, hein, mais au moins les barrages d'accession de ce championnat de national. Comme chaque année, donc le 29 décembre, on a changé de coach. Bon, en vrai, je suis 22. Pas certain qu'il y ait eu beaucoup de gens à l'époque pour défendre Maxime Dornano, car la promesse de prendre du plaisir les soirs de match, elle était surtout tenue bah, quand on n'y allait pas.
Continue.
On a un nouveau coach avec une grande expérience du très très haut niveau, un palmarès, mais bon voilà, le gars il est arrivé avec ses titres et son couteau. Et même si, en tout cas de mon point de vue, le contenu des matchs c'est quand même un peu plus emballant, force est de constater que l'écart en nombre de points avec le haut du classement a augmenté. Aujourd'hui on est 16 points derrière Sochaux.
Je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché.
Alors, les comptes ne sont pas bons, c'est peu dire qu'on n'y arrive pas. Hein. Le succès avec Malherbe, bah, c'est pas du quotidien. Quoi. C'est-à-dire que même moi, au lycée, j'avais plus de succès avec les meufs que Malherbe n'a de succès dans le championnat. Et pourtant, je suis resté plus sous jusqu'à 32 ans. Après, peut-être qu'au départ, on a fondé trop gros espoirs dans ce nouveau cycle. Peut-être que le tort, c'est d'y avoir cru, alors qu'en vrai, on savait pas trop où on allait. Quoi. Un peu comme cette chronique, d'ailleurs, au final. Mais voilà, on y a cru, ça n'a pas marché, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ah oui, non, mais c'est sûr. Dans mon plan, il y a un moment où vous êtes efficace.
Alors,
non, mais jamais.
Vrai,
c'est la partie osée, le paramètre hasardeux, vous voyez ?
En vrai, qu'est-ce qui s'est passé ? On sait très bien, on n'en sait rien. En vrai, on n'en est plus là. Ce qu'on sait, c'est que ça reste du foot. Hein. Même le projet le plus sérieux peut échouer. Souvenez-vous de Gilles Sergent, hein, qui avait su nous montrer que, bah, en fait, un plan PowerPoint, bah, ça ne sait pas défendre sur corner. Quoi, hein. C'est pas comme l'équipe. Hein. Alors bon, moi, je suis incapable de dire si ce projet il est sérieux ou pas. D'abord, c'est parce que bah, je ne le connais pas, vu qu'il n'a jamais été présenté publiquement. Et puis, le sujet, il n'est déjà plus là. En vrai, on demande quoi ? De l'envie, de l'engagement. Mais au final, le sujet de l'envie et de l'engagement, certes, il concerne le terrain, mais il nous concerne aussi nous. Parce que le vrai sujet, c'est nous, nous les supporters, nous les gens. Pendant combien de temps on va encore avoir envie ? Pendant combien de temps on va encore avoir cet engagement ? Et en vrai, c'est extraordinaire ce truc, parce qu'il y a ici, il y avait ici un engouement assez incroyable, au vu de tous les paramètres, un club en réalité, mais sans palmarès, on va pas se mentir. Moyenne ville de province, résultat en dents de scie un peu tout le temps, mais il y avait un attachement dont on n'est pas bien certain qu'il soit encore complètement là. Parce que je crois qu'il y a eu peut-être une erreur du diagnostic, ou en tout cas de compréhension sur le contexte local. Un club, c'est aussi une histoire, c'est une âme, c'est un point commun entre des gens qui souvent n'en auraient pas. Mais genre, pourquoi je parlerais à ce mec-là, par exemple ? Moi, je vais pas vous faire le coup...
Arrête de me pointer quand tu dis ça.
Moi, je vais pas vous faire le coup du Malherbe, c'est unique, parce que en vrai, c'est pas vrai, c'est pas unique Malherbe. Des clubs, il y en a plein d'autres avec leurs valeurs, leurs histoires, leurs ambitions, mais ces clubs, ils ont chacun leur singularité, et c'est ce qui fait que pour nous, c'est celui-là et pas un autre. Et c'est comme les gamins en fait. On sait que les autres parents ont les leurs, mais pour nous, ce sont les nôtres qui comptent. C'est ceux qui sont là: Louise, Romy, Anaïs, Luc, Adrien, Colombe, Alyosha, et donc. En foot, c'est Malherbe. La question, c'est qu'est-ce qui fait qu'à Caen, on a des mecs, on a des meufs qui vont se déplacer jusqu'au stade. Alors j'ai dit Caen, mais ça concerne en réalité tout le Calvados, mais aussi les copains, les copines de l'Orne, de la Manche, tous ceux qui sont plus loin encore, Elisa Rouen, Dimitri, Marie, Jonathan, Christophe, Vincent et tous les autres à Paris, que je ne vais pas citer tout le monde.
Alban.
Ouais, Émilie, Mathieu Agnor, Pascal en Ardèche, Guillaume Benjamin à Nantes, les Toulousains, Julie, son petit Gabriel, Laurent, Idriss, enfin, je parle pas de tous ceux qui sont encore plus loin, comme Guillaume à Toronto, et même dans d'autres pays. Alors, ici, les gens s'en foutent un peu, en vrai, de qu'on leur parle d'avenir. Les gens ne viennent pas au stade pour le futur, pour les prochaines victoires, pour des objectifs qui pourraient paraître très lointains.
Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « l'Europe, l'Europe, l'Europe ».
Non.
Oh putain, non, pas lui.
C'est pas.
Pourquoi?
Non, voyons, Julien.
C'est pas lui?
Non.
Non. Ah, j'ai cru, putain.
C'est pas. C'est pas
oh, non, non, mais un petit cours d'histoire de la cinquième, là, quand même.
Pardon. Bah c'est qui?
Charles de Gaulle.
Ah putain, mais j'ai cru que c'était Jean-Marie.
Oui, ça ressemble.
Alors, pour moi, j'avais compris que c'était, c'était le général.
Putain.
On reconnaît les gens éduqués.
Général.
Donc non, les gens viennent au stade pour leur passer avec ce club, pour leur souvenir au stade. C'est comme si à chaque fois on était à la recherche de l'émotion de la première fois. Ce qui nous fait bouger, c'est pas l'avenir, c'est le passé. C'est ça qui est bizarre. Et c'est pour ça que c'est tellement particulier un club de foot. C'est l'âme qui nous relie à ce club, pas son potentiel, pas son développement à venir. Un club, certes, on peut l'acheter. Le prendre, c'est bien. Le comprendre, c'est mieux.
Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.
Merci JB.
C'est très réchauffé.
Ah ouais. Bon, on va vraiment terminer avec des toutes petites questions, des petites
des questions flash,
réponses, parce que là on est vraiment
flash, réponses courtes.
Allez.
En plus, moi, je continue avec les questions qui font chier. Je sais pas si t'as entendu parler ou lu dans les journaux, ça a parlé un petit peu de l'association Stade Malherbe ces derniers temps. Quelle est ta vision des choses sur les soucis à l'association?
Écoute, on suit ça d'extrêmement près, comme tu l'imagines. Tout le monde sait qu'on n'a aucun lien juridique avec l'asso qui nous permet d'avoir un impact.
Tout le monde sait, je pense que c'est bien de le rappeler quand même, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mélange. Donc, c'est bien. Non, mais c'est bien de le dire, justement.
Encore une légende urbaine.
Tout à fait.
Non, c'est dingue, elles sont tenaces. On va voir comment ça va se dénouer, mais on s'attend tous à ce que ça se fasse de la manière humaine, respectueuse et je dirais comme cela doit être dans une association et surtout quand elle s'appelle association Malherbe.
Surtout quand il y a Malherbe dedans, comme We Are Malherbe.
Exactement. donc on regarde ça et on est en conversation de manière très régulière avec les personnes concernées.
Mais ça dit, c'est pareil, on n'a pas de lien.
Autre question flash, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui clairement pointent aujourd'hui Reda Hamash comme responsable de ce qui nous arrive?
Je pointais des personnes comme ça toutes seules, c'est toujours.
J'ai pas dit toutes seules, mais qui appellent un bilan de son action.
Il y a un bilan à faire de toute façon. On doit tous le faire, le bilan. Et il faut jamais fuir ses responsabilités. Donc il y a un bilan qui va être fait en fin d'année sur qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, avec les datas qu'on va avoir sur les équipes, etc. Et on va devoir faire des restructurations, on va devoir faire des changements par-ci par-là. Mais c'est toujours très facile de tirer sur un homme.
Non, mais les entraîneurs ont eu, eux, à assumer le manque de résultats. Donc, c'est logique à un moment que les gens se tournent aussi vers les autres composantes du club pour poser des questions.
Oui, c'est vrai. Sauf que les entraîneurs, en général, approuvent aussi les recrues. Donc,
justement, parlons recrues.
La dernière question.
Je voulais parler des jeunes. On a vu, je crois, la semaine dernière ou au début de semaine, il y a Kylian Portu qui a signé.
Ouais, et qui a joué. Qui a fait une rentrée à Valenciennes. Ouais.
Voilà, on sait qu'il y a d'autres noms, notamment Kluivert Sambi, Mathis Romder, notamment, qui sont pas mal observés, on va dire.
On est en conversation avec eux pour terminer.
Ça sent bon ou ça pue?
Non, on a deux personnes qui sont très intéressées par le projet du club. Projet du club qui commence à prendre d'ailleurs une résonance assez intéressante. On vient de signer quatre, c'est les noms dont je faisais allusion tout à l'heure.
Sur des petits jeunes.
Quatre petits jeunes, je parle de petits jeunes, hein, des U13, mais qui sont les plus talentueux de France, qui ont signé chez nous alors qu'ils étaient convoités par toutes les grandes écuries de France. Parce que justement, il y a ce projet maintenant qui met en place au centre de formation avec non seulement le foot, mais tout le reste, et qui attire les familles.
Qui seront titulaires tout à l'heure, là.
et on a aussi, dans les catégories un peu plus haut, les U17, les U19, les U15. On a parlé des U18 avec la Gambardella. Donc, ça commence à se développer. On en est très fiers.
Donc, en résumé, tout va bien, sauf les pros.
Écoute, tout va bien, ça va jamais trop bien. Il faut toujours travailler, toujours avancer. Il y a encore plein de choses qu'on est en train de faire sur le centre de formation. L'année prochaine, on va commencer ce qu'on appelle de manière cynique un petit peu le projet Mbappé. Avec le centre de formation, les gens pensent que le projet Mbappé, c'est tu te lèves à 6h du mat, tu fais des tours de terrain, tu bosses, c'est ton père qui te dit cours, 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 cours.
Ouais.
C'est pas du tout le cas, c'est justement cet éventail de foot, mais aussi de plaisir, de culture. On va passer énormément de temps avec la culture. Le stage KM, auquel je faisais allusion avec les U13 et les U14, les enfants ont passé du temps pendant une semaine de vacances à faire autre chose, aussi avec des gens porteurs de handicap. On va maintenant faire ce stage avec les 11 des 13 clubs qui sont partenaires dans le département. Donc toutes ces choses-là font que ça fonctionne au centre de formation. Je sais que certains regardent les résultats de la réserve pour passer à autre chose. Mais il y a des raisons là-dessus. On a décidé en tant que club d'avoir un centre de formation et pas un centre de résultats uniquement. Donc on a une équipe qui joue qui est beaucoup plus jeune que les autres équipes. On a eu les erreurs de jeunesse au début. Là, on voit que ça... On a fait un choix conscient de pas embaucher des joueurs professionnels pour essayer d'avoir le maintien coûte que coûte. Donc on fait jouer nos joueurs qu'on veut faire évoluer, qu'on veut faire passer en équipe 1 avec les erreurs de jeunesse qu'on a fait en début de saison, mais qui commencent à se résorber un petit peu. Et là, ça commence à aller un petit peu mieux. On a un super match important ce week-end qui permet, si on le gagne, de nous sortir un petit peu de cette zone. Les filles, on en a parlé, avec un coach qui fait un travail fantastique, Tristan, etc. Donc, toutes ces choses-là avancent. Il faut qu'on arrive à mettre le doigt sur l'équipe première, comme tu dis. Mais on ne lâche pas. On va bosser et on va y arriver. Et on a besoin, là, je répète ce que tu disais tout à l'heure, Anaïs, de tout le monde, les supporters. Moi, j'ai aucun doute que l'année prochaine, ils seront là encore cette année, parce que c'est... Tu parles d'âme, l'âme, c'est dans les hauts et dans les bas. Tu parles de famille, tu lâches pas ta sœur ou ton frère quand elle va mal. Et tu l'aimes pas plus quand elle va bien. Donc, il faut qu'on reste ensemble, on a besoin de tout le monde, les partenaires, les supporters, les autorités locales, vous. À la fin de la journée, on peut avoir tout un tas de débats sur qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait pas bien. Le Stade Malherbe, on a tous envie que ça réussisse. Et c'est ce qui nous lie tous. Tu disais tout à l'heure pourquoi je serais copain avec lui. Ça lie, ça noue toute une ville, tout un département, toute une région. On peut pas rigoler avec ça. On a des responsabilités qui sont bien plus importantes qu'une personne ou qu'un petit groupe ou que la direction ou juste les joueurs. Donc, on va y arriver ensemble ou on va pas y arriver.
J'ai une micro-dernière question. Et on boucle la boucle.
On va jamais finir.
Non, t'as plusieurs fois parlé de légendes urbaines pendant l'émission.
Non, c'est vous qui en avez parlé. Non, moi, j'en ai noté quelques-unes.
Oui, mais c'est... Il y a beaucoup de légendes urbaines. Qu'est-ce qui, à ton avis, fait qu'il y en a autant? Parce que franchement, on n'a jamais eu ça avant. Qu'est-ce qui creuse cet écart entre les légendes urbaines et la vérité?
C'est une très bonne question. Moi, je crois qu'il y a deux... Moi, je vois deux raisons. Une raison qui fait qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont à dessein voulu commencer ces légendes urbaines pour ne pas nous rendre service.
Qui ça?
Mais, mais une, autre flash, raison aussi, une autre raison aussi, c'est qu'on a peut-être, nous, fait des erreurs, et moi le premier, des erreurs, que ce soit de communication, on en parlait tout à l'heure, ou de choses qui permettent des silences, parfois un petit peu trop longs, qui permettent du coup de laisser de la place à ces légendes. Et peut-être qu'il faut tordre le cou aux légendes plus vite que ça. Donc c'est toujours... c'est jamais la faute de quelqu'un seulement, c'est toujours un groupe.
Merci, un grand merci Ziad, ouais. D'avoir fait un peu plus d'une heure avec nous.
On avait tellement de questions.
Merci à vous. Et
ouais, on aurait pu en faire encore des heures d'édition.
Beaucoup.
Ouais.
Et au plaisir de boire une bière après la victoire de ce soir, j'espère, contre Châteauroux.
Bon, on le souhaite.
On te le souhaite.
C'est clair. Mais j'en profite pour dire qu'il faut mettre autre chose que ce qu'il y a à boire dans la buvette sous le stade.
Alors là,
bouillon, la reprise du bouillon là sur l'esplanade, le bar.
On veut bien déconner, mais non, pas ça.
Pardon, loi E20, tout ça, mais mon petit vin blanc, il n'y en a pas. Alors j'en profite pour le placer aux hautes autorités.
Ça la rend hargneuse, il y a de quelque chose.
Il y a de ça, il le sait, parce qu'il est là, je le vois à chaque fois avant les matchs.
J'ai l'impression que le vin blanc, là, t'en as besoin. Donc on va faire ensemble.
Tu vois pas, les trembles, regarde les trembles.
Écoute, c'est un endroit, juste pour terminer là-dessus, c'est un endroit qui, pour nous, nous tient très, très à cœur. C'est un endroit que nous allons développer au fur et à mesure. Parce que c'est pareil, je parlais d'âme et de lien, c'est un endroit qui doit servir de lien à toute la communauté, que ce soit certains joueurs qui viennent, moi j'adore y aller,
ouais, c'est vrai.
Des membres du staff, etc. Bien entendu les supporters, les joueurs, tout. Et donc on augmente en qualité petit à petit, et je ferai en sorte, dès que j'arrive au bureau là, dans une demi-heure, de mettre le vin blanc.
Tu mets le dossier blanc sur le tapis.
Il faut juste que je vérifie le coût de la loi E20, parce que ça se trouve on n'a pas la licence adéquate, mais tu sais quoi, je peux ramener une bouteille qu'on mettra derrière le...
Bah, de toute façon on y sera tout
on
à l'heure
là, dire, ouais.
Un grand merci à tous d'avoir suivi.
Merci beaucoup,
un grand merci Ziad.
Allez Malherbe
et allez Malherbe
allez Malherbe
et poutou poutou
merci.